Chapitre 3, le château. Le château de Bois-Renault, où l'abbé de Gondy fit sa résidence et que la duchesse de Falaris choisit un instant pour retraite à cause de son voisinage du Rhincy, compte encore parmi ses hôtes célèbres le danseur Trinitz, qui eut l'honneur d'y recevoir en 1798 Madame Tallien et Récamier. À l'époque où se renoue notre histoire, le château et ses magnifiques dépendances étaient depuis quelques années la propriété de monsieur le baron Schwartz, qui se proposait d'y faire de nombreux embellissements. Le baron Schwartz était un esprit net et tranchant, qui ne faisait pas les choses à demi. Embellir est un traître mot. On démolit le château pour construire à sa place une belle maison moderne. En ce temps-là, quand on arrivait le long du canal, et qu'après avoir dépassé le dernier feston des futaies, la plaine cultivée se déployait au regard, la première chose qui les frappait, la seule, c'était ce petit castel aux profils mutins et cavaliers, avec ses 6 tourelles coiffées à la mauresque et ses 3 corps de logis disparates, dont l'un parlait du Moyen-Âge, tandis que les 2 autres semblaient raconter quelque anecdote batailleuse et galante de la Fronde. Le parc s'étendait en éventail derrière le manoir et confinait partout à la forêt, dont il n'était séparé que par un large saut de loup. L'avenue qui conduisait du château à Vaujours était un rideau de peupliers dont chaque branche valait un arbre de 50 ans. On se souvient encore dans le pays de ce gigantesque mur de verdure et des chênes énormes qui ombrageaient l'allée tournante menant à Montfermeil par les hauteurs de Clichy en Launois. Le baron Schwartz, un jour de baisse, avait acheté tout cela à très bon marché, sans le visiter en détail et dans un but de pure spéculation. Quand il y vint pour aviser aux moyens d'en tirer parti, le site s'empara de lui du premier coup. Le château seul lui déplut, parce que le baron Schwartz était fils du présent qui déteste le passé. Au lieu de morceler ce paradis et de le débiter à 15 sous le mètre pour en faire un de ces aimables séjours où les gens de Paris viennent bâtir des petites maisons délicieuses avec un entourage comme les tombes au Père Lachaise, il eut fantaisie de dépenser une couple de millions ou davantage selon les proportions que prendrait son caprice. Ce n'était pas beaucoup pour lui. Sa maison de banque était la rivière du proverbe où l'eau va toujours. Bien que sa noblesse financière ne remontât pas aux croisades, c'était déjà une vieille fortune, solide, sincère et largement basée sur un crédit européen. On disait de lui qu'il prêtait au roi à la petite semaine. Un palais neuf, voilà ce qui plaît, un peu le style de la bourse, cela rappelle d'émouvants souvenirs. Donc, à 200 pas de l'ancien manoir, en situation belle et choisie, les maçons étaient en train de bâtir le palais. On traçait dans le parc le méandre des nouvelles allées, on comblait le saut de loup pour le remonter plus loin et enclore 100 hectares de futaies acquis récemment. On battait la glaise au fond du lac déjà creusé. Le soleil allait se couchant derrière les arbres qui cachent au loin le clocher et donnaient les bondis quand notre jeune fille aux voiles noires du bateau-poste se dirigea vers la grille dorée de monsieur le baron Schwartz. Elle suivait l'allée d'un pas assez rapide mais mal assuré, presque pénible. À la voir par derrière, vous eussiez dit une convalescente à sa première sortie. Tout en elle du reste confirmait cette pensée. La fatigue courbait sa taille gracieuse, mais trop grêle, qui ne semblait plus faite pour la robe qu'elle portait. 2 ou 3 fois, le long du chemin, elle fut obligée de s'arrêter pour reprendre haleine. L'équipage de 3 pattes la rejoignit, quand elle n'était encore qu'à moitié de l'avenue, quoique monsieur Cotentin de la lourde ville eût fait déjà son entrée. L'estropié la connaissait sans doute, car sa figure ébaucha un sourire, mais il ne lui parla pas en la dépassant. La jeune fille le suivit d'un œil distrait et morne. 3 pattes et son équipage étaient entrés déjà quand elle arriva devant la grille. Elle reprit haleine et sa main mit à toucher le bouton une certaine hésitation. Comme vous voilà maigrie, mademoiselle Edmé, dit une voix derrière elle. Parole d'honneur, je ne vous reconnaissais pas. La jeune fille se retourna vivement, comme si elle eût été prise en faute, et une nuance rosée vint à son pâle visage. Bonjour, Domergue, répliqua-t-elle, j'étais un peu malade. Comment va-t-on au château? Elle souriait, et il y avait je ne sais quoi qui faisait peine dans la charmante douceur de son sourire. Nous connaissons Domergue, l'important valet qui ressemblait à un receveur de la Banque de France. Son entrevue avec notre ami Similor n'avait pas été, paraît-il, de très longue durée, car il avait rejoint la jolie voyageuse en se promenant et sans presser le pas. Mais en affaires, il ne faut point juger la gravité d'une entrevue par sa durée. Cette fois, Domergue ôta sa casquette et sa figure austère se radoucit notablement. À le regarder mieux, il avait l'air du plus brave homme du monde. Seulement, il savait garder son rang. Il s'agissait ici d'une femme, et personne n'ignore que la galanterie ne fit jamais déroger un haut personnage. « Un peu malade, répéta-t-il. Tout le monde va assez bien chez nous, merci, malgré la démolition et le tremblement. Vous êtes pâle comme un linge, parole d'honneur. Un peu malade. Il y a du nouveau ici, vous savez ?» Non, Domergue, je ne sais rien. On parle d'un mariage. Avec Monsieur Maurice, interrompit Edmé presque joyeusement. Domergue haussa les épaules. Ce ne serait pas un mariage, cela, reprit-il. Le cousin Maurice est en disgrâce, comme Monsieur Michel. J'ai bien cru que Monsieur Michel deviendrait notre gendre. Monsieur le baron n'aurait pas dit non, malgré la différence de fortune. Mais il se rencontre des impossibilités. Avez-vous sonné, mademoiselle Edmé ? Pendant les dernières paroles du valet, la jeune fille avait changé plusieurs fois de couleur. « Pas encore, répondit-elle d'une voix qui tremblait. Puis elle ajouta, pensant tout haut, « Blanche, un mariage, déjà ?»« 16 ans !» reprit Domergue en poussant le bouton de cuivre qui mit en mouvement une cloche au timbre sonore et plein. « Joli comme un amour. Écoutez donc, les dots de 2 millions comptant n'ont pas l'habitude de moisir en magasin. Monsieur Lecoq est dans la quarantaine, mais beau cavalier !» La jeune fille répéta avec stupéfaction. « Monsieur Lecoq ? Oui, oui, on dit qu'il a le bras long, quoique j'aurais cru qu'on aurait pris un banquier, ou au moins un duc. On avait parlé d'un duc, vous savez. » « Je ne sais rien, répéta la jeune fille. C'est juste. La chose se faisait par Monsieur Lecoq. En voilà un qui a pas de l'ouvrage. Du reste, tant qu'on n'a pas été à la mairie, n'est-ce pas ? Mais entrez, mademoiselle Edmé. Vous savez que nous sommes de bon monde et pas fiers. Ça fait plaisir à mademoiselle de vous recevoir. Madame Sicard !» Madame Sicard était une femme de chambre de digne apparence, entre deux âges, tirée à 4 épingles, qui portait aussi bien que Monsieur Domergue, mais qui ne souriait pas. La voix de son collègue l'arrêta comme elle montait le perron. « Tiens, fit-elle, mademoiselle Leber. » Elle ajouta, non sans une certaine bienveillance, qui chez elle avait beaucoup de prix, « On a justement fait votre chambre aujourd'hui. » Je viens seulement pour saluer ces dames, murmura la jeune fille, avec un embarras que ne justifiait point l'accueil reçu. Si vous voulez bien prévenir, mademoiselle. Entrez au salon, en attendant, je vais dire qu'on mette votre couvert, mais j'y songe, s'interrompit madame Sicard. Madame la baronne m'a dit, voyons, que si vous veniez, c'était elle qu'il fallait avertir. Au fait, c'est toujours de même. On avait traversé le vestibule. Madame Sicard monta l'escalier pendant que Domergue introduisait Edmé au salon. La pâleur de celle-ci avait augmenté subitement et à tel point qu'elle semblait prête à se trouver mal. Elle s'affaissa sur un siège et porta son mouchoir à ses lèvres. « Le plus souvent qu'on vous laissera partir à 16 heures-ci, et dans un état pareil, » dit l'honnête valet, qui prit, ma foi, ses mains froides et les réchauffa dans les siennes. « Vous êtes comme qui dirait de la maison, ma chère enfant, et j'ai plus d'une fois entendu parler à madame la baronne qu'une maîtresse de piano comme vous, c'était une amie. » « Un verre d'eau, » murmura Edmé, « je viens d'être un peu malade. » Domergue sortit aussitôt en courant. Ce n'était pas un septembriseur. Il pensa, un peu malade, parole d'honneur, c'est trop pour les uns, pas assez pour les autres. Il y a de la misère dans le fait de cet enfant-là. Cet être délicat et charmant, Edmé Leber, était pauvre. Son costume propre, mais si modeste, ne l'aurait pas dit que sa timidité l'eût crié. L'idée était venue à Domergue qu'Edmé avait faim. Il se trompait. Le pain ne manquait pas encore chez la mère d'Edmé, quoique tout le reste y manquât. Et si Edmé n'avait pas eu de pain, sa fièvre l'eût nourri. Dès qu'elle se vit seule, de grosses larmes que sa fierté contenait roulèrent lentement sur sa joue. Elle releva son voile et montra un visage de 18 ans, aux lignes exquises, mais que déjà la souffrance avait touché. Edmé était à la fois jolie et belle. Vous n'auriez pu voir sans être ému ses grands yeux humides, sous ce front couronné d'admirables cheveux blonds, ce nez fin aux arêtes précises mais suaves, cette bouche, hélas, sérieuse, mais où l'on devinait un trésor de sourire. Et pourtant ce n'était pas là, Edmé. Ce qui frappait en elle et ce qui ravissait planait au-dessus de tout cela comme une âme, rayon, harmonie et parfum, une émanation presque divine. Et que dire de plus, une âme de douceur et d'honneur. Le salon était grand, somptueux et meublé à la romaine. Le regard mouillé d'Edmé en fit le tour et s'arrêta un instant sur le piano. Le piano lui parla, car elle murmura en souriant amèrement « Blanche épouse monsieur le coq ». Au-dessus du piano était un portrait de fillette, une brune, espiègle et rieuse. « Cela est-il possible ?» ajouta Edmé, blanche, le cher petit cœur. Des deux côtés de la cheminée étrusque, en marbre violet, ornée de mosaïques et chargée de curiosités pompéiennes, deux autres portraits pendaient, dont les cadres d'une richesse extrême écrasaient la peinture, bien qu'ils fussent signés par un des bons maîtres de la restauration. L'un représentait un homme de 25 ans, étroit d'épaule, petit, maigre, aux traits intelligents et plein de volonté. L'autre, une très belle jeune femme, presque aussi belle qu'Edmé, et qui, comme elle, avait son charme dans l'expression plus encore que dans la parfaite régularité de ses traits. Quand le regard d'Edmé tomba sur cette dernière toile, sa prunelle eut un éclair et un peu de sang vint à ses joues. Elle se leva, malgré la fatigue extrême qui tout à l'heure l'avait jetée sur ce siège. Elle traversa d'un pas pénible toute la largeur du salon. Elle s'arrêta devant la cheminée. Le portrait semblait exercer sur elle une sorte de fascination. Était-ce le portrait? Une partie du portrait, plutôt, car son œil fixe concentrait tous ses rayons sur un point qui n'était pas même le visage, mais qui était près du visage. Madame la baronne Schwartz était posée de 3/4. Elle portait un costume d'apparat. Un turban jeté de côté la coiffait, cachant une de ses oreilles, tandis que l'autre, blanche, fine et ornée d'un simple bouton de diamant, sortait des masses noires de son opulente chevelure. C'était l'oreille que regardait Edmé. Moins que l'oreille encore, car l'oreille se voyait parfaitement, et la jeune fille, chose étrange, dans son état de souffrance et de lassitude, monta sur la chaise pour examiner de plus près. Pendant plusieurs minutes, elle examina attentivement. Tout son être se concentrait dans sa vue. Elle tremblait et changeait de couleur. Un bruit de pas se fit. Elle redescendit précipitamment et ses lèvres s'entr'ouvrirent pour laisser tomber ces mots. C'était bien elle. Domergue entra, portant un plateau. « Je vous ai fait attendre, ma chère demoiselle, commença-t-il. » Donnez, interrompit Edmé, de cette voix sèche et sans vibration qui trahit sa fièvre aussi sûrement que l'accélération du pouls. « Comment vous trouvez-vous ? » ajouta le valet pendant qu'elle buvait à longs traits. « Mieux, je vous remercie. Vous êtes si changé, et voyez, votre main tremble. » « Beaucoup mieux, » répéta Edmé avec impatience. « Je voudrais voir madame la baronne sur le champ. Dites qu'on ne prépare pas ma chambre et qu'on ne mette pas mon couvert. » Domergue la regarda étonnée. Il y avait dans ses gros yeux de la tristesse et de la compassion. Il sortit. Pour la seconde fois, Edmée était seule. Elle s'assit auprès de la fenêtre et attendit. Les fenêtres du salon donnaient sur le jardin et gardaient leurs jalousies fermées. Edmée Leber glissa son regard distrait au travers des planchettes et vit les hôtes du dimanche disséminés par petits groupes sur la magnifique pelouse d'où le soleil s'était retiré. Blanche n'était point là, non plus que sa mère, la baronne. Deux dames d'un certain âge jouaient au volant avec une grande affectation de gaieté. Quelques messieurs faisaient cercle auprès de monsieur Cotentin de la Lourdeville qui tenait à la main le journal du soir. Des promeneurs passaient le long du château et causaient. « Je ne vois là-dedans, dit l'un d'eux, rien que de parfaitement honorable. Monsieur le baron se souvient qu'au début de sa carrière, il fut le banquier des pauvres. « Bon métier, fut-il répondu. On gagne souvent gros avec les pauvres. On peut être à la fois habile et philanthrope, dit Cotentin, ça et ça. » « Il y a des anecdotes étonnantes. J'ai ouï parler d'un indigent qui achetait tous les ans 1 000 ou 1 200 francs de rente. « Un mendiant de Lyon, madame, a doté récemment sa fille, comme les nôtres ne le sont pas. « Vous connaissez l'histoire de cet aveugle qui avait 50 000 écus dans sa paillasse ?»« Ce trois-pattes est un animal fort curieux. » « Où donc se cache monsieur le baron ? » fut-il demandé du fond du parterre. Une fenêtre du premier étage s'ouvrit, et monsieur le baron répondit « Je suis à vous, je termine une affaire. » « Avec trois pattes, acheva-t-on à demi-voix dans les groupes. » Edmée Leber n'écoutait déjà plus, la rêverie l'avait prise. Ses yeux, demi-fermés, s'abaissaient vers le tapis sans le voir, et sa belle tête pensive s'appuyait sur sa main. « Allons un peu visiter l'attelage de ce capitaine d'un nouveau genre, dit-on encore sous les croisées. » La réponse et les gaietés qui la suivirent s'étouffèrent au lointain. L'arrivée du nouveau client avait fait sensation parmi les convives du château de Boisrenaud. Si Trois-Pattes était un homme d'argent, il avait naturellement droit à un bon accueil, pas de doute à cet égard, mais l'argent se reçoit à la caisse, il suffit pour cela d'un commis. Sous quel prétexte Trois-Pattes et son grotesque équipage passaient-ils le seuil de la somptueuse villa en ce jour de repos où le millionnaire n'accueillait que ses amis? C'était un prétexte à gloser. Le règlement au château de Boisrenaud défendait de parler affaires. Monsieur le baron Schwartz délaissait ses invités pour recevoir Trois-Pattes dans son cabinet. Était-ce pour parler politique? Personne ici n'ignorait la légende de Trois-Pattes que les domestiques du baron avaient ordre d'appeler Monsieur Mathieu. Trois-Pattes était un personnage dès longtemps célèbre dans le quartier de la Porte-Saint-Martin, et ses relations avec Monsieur Schwartz étendaient désormais sa gloire jusqu'à la Madeleine. Trois-Pattes était arrivé un jour, personne ne savait d'où, dans la cour du Plat d'Étain, siège d'une entreprise de messagerie qui, avant l'établissement des chemins de fer, desservait toute la banlieue de l'Est. Il était descendu de son panier, traîné par un chien, et s'était rendu à pied, c'est-à-dire en rampant sur les mains et sur le ventre, au bureau. Là, il avait fait le nécessaire pour avoir le droit de s'installer dans la cour en qualité de facteur. Tout de suite après, manœuvrant ses mains armées de palettes et le reste de son corps contenu dans une sorte de corbeille munie de roues, il avait pris possession de l'endroit où s'arrêtent les voitures à l'entrée. Ses commencements avaient été difficiles. Il ne possédait, à vrai dire, aucune des qualités physiques du facteur, mais ses qualités morales y suppliaient largement. À Paris, d'ailleurs, les choses bizarres font fortune. Trois-Pattes, marchant avec ses jambes dans sa poche, comme disaient les plaisants du quartier, excita cet étonnement qui précède et qui prépare la vogue. Il avait installé sur son dos 4 crochets qui lui servaient de main et auxquels il fixait très adroitement les colis. À son côté pendait un sifflet que les cochers de la station du boulevard connurent bientôt. Un coup de sifflet appelait un fiacre, 2 coups une citadine, 3 un cabriolet. Au bout de 8 jours, ceci fut réglé, comme si Trois-Pattes eût touché des appointements du gouvernement. Pour la garde des objets, il n'avait pas son pareil. Quant aux discussions d'intérêt avec la buraliste, il vous arrangeait vos affaires en un clin d'œil. Vous savez, la puissance de certains avocats sur le tribunal, trois pattes gagnées, toutes ces causes près de Madame Tourteau, maîtresse de la cabane où s'inscrivaient les voyageurs et les bagages. Et ne croyez pas qu'il mit beaucoup de temps à arpenter la cour du plat d'étain. Ses mains étaient agiles, et il avait une merveilleuse façon de manœuvrer l'inerte fourreau qui renfermait ses jambes. Son allure ressemblait à celle d'un lézard, et les lézards vont vite, quoi qu'on ait dit sur leur paresse. Un anonyme du génie lui trouva ce surnom, Trois Pattes, qui peignait d'un trait sa lamentable infirmité. Personne n'ignore l'élan prodigieux qu'un sobriquet peut donner à une célébrité populaire. Mathieu l'estropié eut peut-être fait fortune, Trois Pattes fit tout uniment fureur, et ses collègues vaincus désertèrent la place. Derrière la gloire, deux divinités viennent, l'envie et la poésie. L'envie sema sur le compte de Trois Pattes ces mille bruits qui tuent une faible réputation, mais qui enflent une belle renommée. Elle accusa Trois Pattes d'appartenir à la police ou de faire partie d'une association de malfaiteurs, deux allégations dont Paris est souverainement prodigue. La poésie lui prêta la richesse, ce charme irrésistible. Elle affirma qu'il amassait quelque part un fabuleux trésor. On ne croit plus aux sorciers, mais le surnaturel a la vie dure. La poésie fit de Trois Pattes une sorte de gnome, changeant de peau à certaines heures et quittant son misérable niveau pour s'élancer vers les sphères dorées de l'élégance aristocratique. Spécifions, la poésie prêta de mystérieuses amours à Trois Pattes, le reptile humain. Ce fut quelque chose comme un de ces contes où Perrault accouplait les monstres avec les princesses. Il s'agissait d'une femme jeune et belle, jusque-là rien d'impossible, mais la femme était aussi noble et riche, croyait-on à cet absurde rêve. La poésie et l'envie se cotisaient donc pour compléter la gloire de Trois Pattes. Il n'en paraissait point affolé. Sérieux et modeste, il continuait d'accomplir son mandat avec un soin exemplaire. Il n'était pas mendiant, mais il prenait de toutes mains et remerciait les bourses généreuses qui s'ouvraient à l'aspect de son infirmité. Il ne repoussait pas plus les aumônes que les salaires. Ses mœurs étaient pures malgré la chronique. Il vivait seul et sobrement. Et cependant la chronique ne mentait pas tout à fait. Il y avait assez de vrai sous les broneries légendaires de l'histoire de Trois Pattes pour légitimer tous les étonnements. Trois Pattes étaient reçus chez M. le baron Schwartz. Dans l'humble escalier qui grimpait au taudis de Trois Pattes, on avait rencontré, on avait reconnu une étoile du ciel parisien, la belle comtesse Corona. Telle était la charade proposée aux curieux par le lézard du plat d'étain. Le baron Schwartz aujourd'hui était dans son cabinet quand un domestique vint lui annoncer Monsieur Mathieu. « Qu'on fasse monter Monsieur Mathieu, dit-il sans hésiter. Monsieur Mathieu descendit de son équipage sans trop de peine et franchit le perron à l'aide d'une gymnastique originale. Ses deux mains, cramponnées aux marches, halaient son torse et l'appendice qui renfermait ses jambes. Cela se faisait assez lestement, à la grande surprise des spectateurs qui contemplaient sa manœuvre. Au bas de l'escalier, un domestique obligeant, ayant voulu soulever la partie paralysée de son corps, Monsieur Mathieu le remercia et lui dit « Inutile ». Néanmoins, après son introduction dans le cabinet du riche banquier, et quand il eut rampé jusqu'à trois pas du bureau, M. Mathieu, poussant un soupir de soulagement, tira de sa poche un mouchoir fort propre et s'essuya amplement le front. « Bien pressé donc, M. Mathieu ?» demanda le baron Schwartz en souriant. Il avait un style à lui quand il voulait, ce baron Schwartz. Les hommes arrivés sont excentriques à peu de frais. Monsieur le baron s'était fait une réputation parmi ceux qui avaient besoin de lui par la brièveté de sa phrase. « Temps, argent », disait souvent Monsieur Schwartz, traduisant à sa manière le fameux axiome de notre bien-aimée Angleterre. Ceux qui le connaissaient bien savaient néanmoins que la moindre émotion le faisait parler comme tout le monde. Trois Pattes répondit en inclinant la tête avec une respectueuse politesse. « J'avais envie de voir un peu la propriété de Monsieur le baron, mais je ne me serais pas permis d'y venir pour mon plaisir seulement. »